Voilà, ben bonjour à tous. Donc je vous donne les salutations de l'église de Lunéville. Et pour ce matin, le choix du thème, en fait, c'est Rachel qui m'a dit qu'elle prendrait dans le lectionnaire les textes du jour. Et j'ai cherché dans le lectionnaire aussi. Au début, je me suis trompée de lectionnaire. J'ai pris celui de l'Union d'Église protestante d'Alsace-Lorraine. Et eux, c'était Ésaïe 6 qui proposait pour la prédication. Et après, j'ai pris l'autre lectionnaire et je me suis dit, mais les textes peuvent se répondre. La lecture parallèle est intéressante. Donc voilà ce que je vais vous proposer ce matin, c'est de prendre un peu ces trois textes. Donc il y en a deux qu'on a déjà vus, Exode 34 et Jean 3, 16 à 18, et Ésaïe 6. Et de les regarder en se posant la question, mais est-ce que Dieu est-il le même dans le passé, à l'époque du Nouveau Testament, maintenant et dans le futur? Quand on lit ces textes, il y a des choses qui peuvent nous interpeller. Et alors, tout d'abord pour le contexte, vous le verrez en lisant les textes. Dans le premier Exode, c'est Dieu qui parle directement à Moïse. Donc déjà, Dieu se révèle d'une certaine manière. Dans Ésaïe, il y a une vision merveilleuse et c'est des anges qui transmettent le message de Dieu à Ésaïe. Une autre manière de faire. Et dans Jean 3, 16 à 18, est-ce que quelqu'un peut me dire comment Dieu parle ?
Par Jésus.
Par Jésus, c'est la rencontre de Jésus et Nicodème. C'est Jésus en tant qu'homme qui vient au milieu de la nuit parler à un enseignant de la loi. Et c'est une discussion. Exode, Dieu se révèle sur une montagne avec toute sa puissance et pas que sa puissance. Ésaïe, une vision extraordinaire des anges, quelque chose de merveilleux. Et Jean, quelque chose de simple, une conversation entre hommes. Mais un de ces hommes n'est pas seulement homme, on l'a chanté, il est homme et Dieu réunis. Alors je vous propose de relire Exode 34, donc tu peux avancer d'une diapo. Comme tout à l'heure on ne l'a pas lu dans le détail, je vais le lire ici. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria : L'Éternel ! L'Éternel ! Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges, qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » Dieu qui parle à Moïse, et Moïse qui lui répond après s'être incliné à terre en disant « Voilà, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et l'Éternel qui conclut une alliance. » Alors c'est intéressant ici, toute la longue présentation, Dieu aurait pu dire « Je suis l'Éternel » et il dit tout ce qu'il est, le Dieu miséricordieux et tout. On y reviendra. Le second texte, donc, est dans Exode, Ésaïe 6. Alors, Ésaïe 6, donc Ésaïe, c'est un prophète de l'Éternel. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, donc des anges, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Donc ça c'est la première partie d'Ésaïe, la rencontre entre le prophète et Dieu via les anges. Et il reconnaît son impureté, sa faiblesse, son impureté par rapport à la grandeur et à la sainteté de Dieu. Et la suite de ce texte, j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. » Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. C'est terrible comme parole. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Quand j'ai lu ça, je me dis, mais c'est terrible. D'où la question, mais est-ce le même Dieu que l'on a partout ? C'est Dieu qui parle de... Il dit que le pays deviendra un immense désert et que même s'il ne reste que 10% des habitants, ils seront encore anéantis. Et le troisième texte qu'on a lu, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors voilà, avec ces trois textes, plusieurs questions. Et on va voir un peu les parallèles. La première question que je vais vous poser par rapport à ces trois textes, c'est comment Dieu se révèle-t-il dans ces différents textes ? Alors, je vous pose un peu la question, je vais vous faire travailler. Je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure. Bon, là, je vous donne un joker. Les autres questions, je vous ferai répondre. Voilà. Donc, tu peux avancer d'une diapo, puisque je vous laisse. Donc, en général, en bleu, c'est Exode. En orange, c'est Ésaïe. Et en vert, c'est Jean. Donc, ça vous arrive à voir d'où vient le texte. Donc, dans Exode, c'est l'Éternel qui descend d'une nuée. qui se tient auprès de Moïse. Et c'est l'Éternel qui proclame lui-même son nom, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est présenté en disant « Je suis ». C'est l'Éternel qui parle directement à Moïse. Dans Ésaïe, il a une vision. Il voit le Seigneur sur un trône élevé, et les pans de sa robe qui remplissent le temple. Il y a des anges tout autour, des anges dont on n'arrive pas à imaginer. Il y a une tentative de description, mais quand on essaye de la mettre en forme, on a du mal à voir à quoi ça ressemble. Et c'est les anges qui parlent. Et dans Jean, c'est Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Trois manières différentes de se révéler, correspondant à trois phases de l'histoire. On aurait pu rajouter la quatrième, où au début, Dieu vivait dans le jardin, dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Et après, Dieu s'est choisi un peuple, mais restait lointain, ne s'exprimait qu'à travers Moïse. Le peuple ne pouvait pas le voir directement. Il y a quelqu'un à l'église de Lignéville qui, quand on prie, presque toujours commence par dire « Seigneur, je ne comprends pas comment un Dieu qu'on ne pouvait pas voir, on devait se voiler la face pour le voir. Maintenant, on peut te parler directement. » Et oui, à l'époque, voir la face de Dieu, c'était mourir. Et après, quand on arrive maintenant, à notre époque, on peut parler à Dieu directement. Nicodème a parlé avec un homme. Et nous, par le Saint-Esprit, ça a été dit, on est le jour de la Trinité. On peut s'exprimer avec Dieu directement. La manière dont Dieu se révèle a évolué. Et la manière dont... tu peux avancer, oui. Dont il se présente est aussi différente dans ces différents textes. Alors, qui est Dieu? Comment est Dieu dans les différents textes? Avec la lumière. Et donc, comment Dieu se révèle? Ça a été lu dans Exode, comment il se présente Dieu? Alors, éternel, mais il dit aussi d'autres choses. Je suis lent à la colère, compatissant, riche en bonté, etc. Donc on sent un Dieu proche quand même. Mais il y a quand même, mais je ne laisse pas le méchant pour impuni. Voilà, il y a quand même cette notion de justice. Et dans Ésaïe,
saint.
Et moi je vais, on peut l'afficher hein, comme ça. Puis dans Jean, effectivement, c'est l'amour. Mais le Saint est l'Éternel des armées. Voilà, c'est... Donc là, on a l'Éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui ne tient pas le coupable pour innocent. Il y a quand même cependant, mais seulement jusqu'à la quatrième génération. Donc 1000 générations d'un côté et puis 4 de l'autre. Mais n'empêche, voilà, il y a en avant cette miséricorde, cette compassion. Ici, on a, à la lecture, moi j'avais une impression de puissance. Toute la terre est remplie de sa gloire, quelque chose d'énorme qui arrive, et saint. Le terme saint, ça veut dire, enfin, on le voit comme pur, parfait, qui ne tolère pas le mal, on peut le lire comme ça. Il y a j'ai oublié de le recopier, mais j'ai regardé dans les dictionnaires, alors plutôt les dictionnaires théologiques, quoi, et sur la sainteté, ils mettent c'est l'expression de l'amour parfait de Dieu. Donc il y a la première définition qui est pureté, parfait, mais il y a aussi des définitions qui disent l'expression parfaite de l'amour de Dieu. Mais là, voilà, on voit un Dieu peut-être lointain qui fait peur, qui, avec le contraste avec tous nos défauts et nos impuretés. Et dans Jean, on a l'amour. Forcément, Jean, c'est l'auteur de l'amour, hein, voilà, enfin, qui écrit beaucoup sur l'amour. Tellement aimé son fils, qui tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Quelqu'un qui n'a pas pour but de juger le monde, c'est pas pour ça qu'il a envoyé Jésus, c'est pas pour juger le monde, c'est pas son but en soi, mais qui a pour but de sauver le monde. On continue les parallèles et puis après on continue. Alors comment le serviteur répond à son appel dans les différents textes ? Alors, voilà, un indice dans Jean, vous ne trouverez pas dans la partie que l'on a lue, parce que Nicodème écoute, donc, mais sur les deux autres.
Ouais, on peut. Il se révèle.
Oui, Dieu se révèle, et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait quand il a entendu Dieu ?
Il se prosterne.
Voilà, il s'incline à terre et il se prosterne. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, on sent qu'il y a cette crainte, mais en même temps, cet espoir d'avoir trouvé grâce à tes yeux. Il y a vraiment cette saine crainte. Et pour Esaïe, qu'est-ce qu'il dit ? Il reconnaît qu'il est impur. Il dit « Malheur à moi, je suis perdu. » Alors Moïse s'incline et dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc il a quand même espoir de la grâce, Esaïe ne l'a plus du tout, hein. Il est « Malheur à moi, je suis perdu. Hein. » Il se rend compte « Mais je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et moi j'ai vu le roi, l'Éternel, je suis perdu. » Et pourtant, Dieu a continué. Donc tu peux afficher le suivant. Et il y a la deuxième, donc la première, non, voilà, celui-ci. Voilà, la première, donc Moïse, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et qui appelle, ben voilà, je sais que tu peux pardonner nos iniquités, et tu peux nous prendre, toi, pour ta possession, donc on vient, ton peuple, on t'appartient. Et Esaïe, au début, c'est « Malheur à moi, je suis perdu. » Et après, il y a tout l'épisode où l'ange lui dépose une braise sur les lèvres en lui disant « Je t'ai purifié. » Et la deuxième étape du prophète, c'est il entend le Seigneur qui lui dit « Qui enverrai-je » et il répond « Me voici, envoie-moi. » Et c'est une saine attitude, les deux longs, et c'est peut-être ce à quoi on a appelé parfois reconnaître « Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. » Mais après, reconnaître aussi qu'avec Dieu, nous pouvons devenir purs. Quand on dit que le peuple de Dieu est un peuple de saints, c'est pas que c'est un peuple de parfait, mais c'est un peuple qui est rattaché à Dieu, et par Dieu, il nous rend saints. Et ensuite, on peut répondre, « Seigneur, me voici, envoie-moi, dis-moi ce que je dois faire. » Et là, les deux, et puis on verra aussi Jean, sont amenés à avoir un message pour le peuple. Alors, quel est ce message ? Donc, on va afficher directement les versets, parce que je me sens un peu... voilà. Le premier message que Dieu donne à Moïse, c'est lui dit, voilà, je vais traiter une alliance avec le peuple. Je vais faire un pacte, non, pacte, c'est parfois connoté négativement, voilà, une alliance avec tout le peuple. Et c'est l'introduction à tous les commandements. Mais en même temps, il dit, voilà, si cette alliance marche, dans votre pays, dans votre peuple, il y aura des prodiges qui n'auront lieu dans aucun pays, nulle part ailleurs. Ce peuple avec qui je fais alliance verra l'œuvre de Dieu. Et j'accomplirai des choses terribles. Alors terribles, c'est pas forcément qui font peur, hein, c'est des choses telles qui dépassent ce qu'on peut imaginer. Le premier message pour Moïse, c'est « Peuple d'Israël, je fais alliance avec toi. » Voilà, il y aura tous ces commandements. Mais si tu les respectes, je fais alliance. Et vous serez un peuple comme il n'y en a aucun autre, parce que je serai votre Dieu. et je ferai des choses merveilleuses avec vous. Le message d'Ésaïe, il est, j'allais dire, tout contraire. On a l'impression, hein, on peut avoir l'impression. Vous entendrez, vous ne comprendrez pas. Vous verrez, vous ne saisirez point. Voilà, ils seront tous anéantis. Il y a toute cette partie qui... Et on ne comprend plus. On se dit, mais attends, Dieu, il a fait alliance avec ce peuple. Il a dit qu'il ferait des choses fabuleuses. Et là, il dit, vous allez tous mourir. Est-ce que c'est le même Dieu ? J'ai lu un commentaire où la personne disait, en fait, Dieu, c'est comme un père avec un enfant qui tombe dans la drogue ou la déchéance et tout ça. Et au début, il lui dit, ben, viens mon fils, reste avec moi, je t'accompagne. Et viens, tu vas t'en sortir. Viens, c'est mieux chez moi. Et le fils lui dit, non mais j'en ai rien à faire de ton bonheur. Moi, je vais chercher ailleurs. Et au bout d'un moment, le père a ce cri de désespoir en disant, ma part, vas-y, mais tu mourras si tu fais ça. Mais pas. Et le commentateur, il voyait ça un peu en disant, c'est le dernier cri. Il a tout essayé pour faire. Et à un moment, il dit, bah, peut-être en lui disant, écoute, vas-y, pars. Tu sais que tu vas mourir si tu fais ça. Mais c'est ton choix. Tu veux pas de mon bonheur. Bah... Et c'est peut-être le moyen de faire réagir la personne. De lui dire. Et il y a quand même peut-être un petit pourcentage. Il y a toujours un reste qui revient. Et ça m'a fait penser aussi, parce que bon, la semaine dernière, j'étais à Belfort et il y avait des baptêmes et quelqu'un a parlé c'était pas dans le cadre d'un baptême, c'est pas grave, mais quelqu'un a parlé de la parabole du fils prodigue. Et c'est vrai que le père, il a sans doute tout fait pour que son fils reste chez lui, pour lui dire, viens, reste, c'est mieux chez moi, viens, je te donne ça, je te... Et à un moment, le fils a dit, bah non, moi je veux tout, moi je veux partir, j'en ai rien à faire de toi. Donc à un moment, il a dit, ok, pars. Tu sais que tu vas vers une catastrophe. Ça va être dur. Mais pars. Mais la porte est toujours restée ouverte. Et là, il y en a beaucoup qui partent et qui reviennent jamais. Mais heureusement, de temps en temps, il y en a qui reviennent. Et là, à Belfort, cet exemple, c'était une famille dont la fille, à 19 ans, est partie, les a supprimés, a changé de téléphone, a supprimé tous les contacts, a supprimé toutes les adresses. Donc pendant 5 ans, ils n'ont pas eu de nouvelles. Et tout d'un coup, ils ont réussi à avoir, par des connaissances, savoir qu'elle était en vie, qu'elle avait. Et puis tout d'un coup, elle les a rappelés en disant, ben, elle a juste envoyé un message, je vais bien, comment allez-vous? Et puis ils ont pu se revoir. Donc voilà. Oui, donc lire ce texte peut-être de manière en disant que c'est un appel de désespoir. Allez, tu veux pas, vas-y. Mais au fond de ça, il y a quand même cet espoir. Une saine postérité renaîtra de ce peuple. Donc, il prend l'exemple d'arbres qui, parfois abattus, on a l'impression qu'il ne reste plus qu'une souche, et tout d'un coup, il y a une petite branche qui repart, et qui redonne vie. Et il dit, ben voilà, ça ira aussi pour le peuple d'Israël. Et le message dans Jean, on l'entend, Dieu est amour, voilà, tous ceux qui viennent sont à lui. Mais parfois on oublie aussi la deuxième partie. Donc la première partie, celui qui croit en Jésus, en Dieu, échappe au jugement. Et il y a aussi cette deuxième partie, celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Oui, Dieu il est purement amour, mais il est purement justice. Et il nous laisse faire, si on n'a pas envie de croire, certains disent, ouais, moi je crois pas parce que votre Dieu est trop dur. Oui, mais si tu dis que Dieu est trop dur, c'est que tu crois quand même un peu qu'il existe. Hein. Si tu en as vraiment, si t'en as vraiment rien à faire. Non, Dieu aime ceux qui croient en lui, mais il force personne à croire. Et donc on peut mettre la dernière diapo, mais j'ai déjà dit pas mal de choses. Dieu est-il toujours le même? Est-ce que c'est un Dieu saint? Un Dieu de jugement? Un Dieu qui extermine les méchants? Un Dieu de grâce? Un Dieu d'amour? Je pourrais vous demander de dire, allez entourer, on ne va pas faire des traces sur le mur, mais quelle est la réponse juste? D'après vous, quelle est la réponse juste dans tout cela? Il n'y en a pas qu'une, j'ai entendu.
Il n'y en a pas qu'une, c'est Dieu d'amour.
Ah, on aime bien ces deux-là. Hein. Mais ces deux, mais celles-ci sont vraies aussi.
Oui, tout est vrai.
Tout est vrai. Tout est vrai. Mais et c'est peut-être parce qu'il aime qu'il est juste aussi et que nous on voit la justice quand il y a quelque chose de mal, on n'aime pas en se disant attends lui il va s'en tirer. Alors en plus bon, notre sentiment de justice parfois est un peu tordu, mais même nous, très imparfaits, on a conscience de la justice, qu'il y a des choses bien et pas bien. Même celui qui ne connaît absolument pas Dieu. Tout homme a un sens de la morale très différent suivant les ans, mais il y a quand même cette limite entre ça c'est acceptable, ça ne l'est pas. Alors la limite fluctue beaucoup entre les personnes. Mais même le pire des personnes a quand même cette limite de ce qui pour lui est acceptable ou pas. D'ailleurs, il y a des philosophes qui disent même si l'homme se fixait lui-même sa propre limite en mettant le minimum, déjà ça, il n'arrive pas à le tenir. Pour dire à quel point on est pécheur, que même les limites qu'on se fixe, non. Enfin bref. Mais donc, on a tous cette conscience de justice, et on a tous. Et notre Dieu est comme ça. C'est pas nous irons tous au paradis, c'est tous ceux qui croient en moi iront au paradis. Tous peuvent y aller, mais tous n'iront pas d'office parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ. Alors, Dieu, oui, un Dieu saint jugement. Oui, il exterminera les méchants, et heureusement, parce que sinon c'est le mal qui dominerait, c'est le mal qui gagnera la fin, et ça nous plaît. Je pense pas qu'on apprécierait d'aller, une éternité avec Dieu, mais où il y a tout le mal. Non, pour que l'éternité soit parfaite et que ce soit une éternité d'amour, de paix, de grâce, il y a cette nécessité. Mais à aucun moment, même dans Ésaïe, quand il est si dur, c'est pour mettre les gens définitivement dans une catégorie méchante. À tous, il offre la possibilité de revenir de grâce. Pour certains, c'est en ayant des propos très durs pour faire électrochoc. Mais en même temps, il accepte ceux qui partent. Et il a toujours conservé un reste. Dans le peuple d'Israël, il y a toujours cette notion qu'il y en a qui seront sauvés. Et dans tout l'évangile, c'est ce miracle, il s'est rendu compte que l'homme, il ne s'en sortait pas lui-même avec ses sacrifices, tout ça, non, ça ne pouvait pas marcher. Il avait besoin de quelqu'un de plus fort. Et j'ai lu cette semaine sur Twitter, alors c'était quelqu'un qui disait « Non, mais plus simple, ce serait de mettre que tout ce qui va mal dans le monde sur une personne et puis de la tuer, et puis après... » Et puis il y a quelqu'un qui a mis un commentaire « Tu viens de réinventer le christianisme. » De se dire, mais c'est tout ce qui allait mal, c'était tout le mal, on le mettait sur une personne, on l'éliminait, et puis voilà. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il a accepté de prendre tout le mal que... Alors, certains ont dit, non, moi, mon mal, je le garde, je suis bien avec. Donc ça, il leur a dit, dommage. Mais si nous, on lui dit, tiens, j'ai conscience de c'est plus que des défauts, mes péchés, mes fautes, mes inconséquences, mon impureté, comme Moïse ou Ésaïe qui se sont jetés à terre de dire oh, un Dieu si grand, et puis moi, si imparfait. J'en ai conscience. Je le donne à Jésus. Et par son sacrifice, il a tout pris. Il est mort pour qu'on ait cette grâce et cet amour. Donc oui, Dieu est toujours le même. Le Dieu qui a créé Adam, Ève, leur a donné la vie. Il a voulu. Il aurait pu ne pas créer l'homme, il aurait eu moins de soucis. Mais il avait besoin, ou envie, ou par amour, il avait besoin d'aimer peut-être. Et pour nous aimer, il nous a créé. Ce Dieu a voulu toujours sauver l'humanité, le ramener à nous. Et par Jésus, nous pouvons être sauvés. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et je vous propose peut-être de prier pour faire plus loin. Éternel, notre Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui a voulu créer l'homme et la femme parce que tu es un Dieu de relation qui aime. Tu as exprimé ton amour par rapport à ces premiers hommes. Mais tu as aussi laissé la liberté. Tu ne supportes pas le mal et pourtant notre monde est rempli de mal. Alors tu as cherché une solution. D'abord viens un peuple en donnant des consignes respectées. Mais tu vois, on en a été incapable. Alors tu as donné ton fils. Seigneur, tu vois que si on regarde à ta sainteté, ta pureté, ton amour, on se rend compte de toutes nos lacunes, nos faiblesses, notre impureté. Comme Ésaïe et Moïse se sont jetés à terre pour pleurer et dire non, on est trop loin de toi, éloigne-toi de nous peut-être. Mais toi tu as dit non, je ne m'éloigne pas, mais je donne une solution. Et tu es venu nous chercher, nous pardonner et nous aimer. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu ne changes pas. Et parce que le fait que tu ne changes pas fait que tes promesses aussi sont vraies. Tes promesses d'une éternité avec toi. D'une éternité dans laquelle il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance. Où on sera pleinement avec toi, te parler face à face. Avec nos frères et sœurs de tous les siècles passés, de tous les pays, de toutes les générations. Merci, merci Seigneur. Amen.